Bonjour tout le monde, bienvenue au 35e épisode de la balado-diffusion conjointe du 98.5 et de La Presse, sortie de zone. Aujourd'hui, vendredi le 14 février, il y a de l'amour dans l'air, j'espère, en tout cas dans nos propos. Ici Mario Langlois avec Simon-Olivier Lorange. Bonjour Simon-Olivier.
Bonjour Mario.
Et Alexandre Pratt. Salut Alexandre.
Salut.
Alors les gars, sentez-vous l'amour dans l'environnement du Canadien au lendemain d'une défaite? Deux matchs à l'horizon. Je sais pas quand vous allez écouter la sortie de zone, mais au moment de l'enregistrement, on est à quelques heures du match de Pittsburgh et du match du samedi soir.
Comme disent les Anglais, tough love.
Tough love.
Ça résume assez bien la situation, je pense.
Elle porte très précise, veux pas, hein, quand tu perds des matchs, même si les Leafs en perdent encore et qu'il y a encore peut-être l'illusion d'une possibilité non, de série. Mais... Le porte précise un peu, Simon-Olivier. Ben, le sens-tu dans l'environnement de l'équipe?
Ben là, moi, je suis dans une drôle de position parce que je les ai pas beaucoup vus cette semaine, vu que depuis qu'ils sont partis sur la route, mais tu sais, le portrait... L'équipe a été très positive dans ses communications, puis les joueurs disent on lâche pas tout ça, mais tu sais le portrait il est précis depuis longtemps. Je pense que là c'est juste que comment on pourrait dire ça se solidifie un peu cette idée là que ça arrivera pas, mais tu sais le Canadien est dans la même posture qu'il y a trois semaines, qu'il y a un mois, ça donc ça oui dans un certain sens ça se précise, mais disons qu'on je pense pas qu'on a été beaucoup à être dupes tellement dans cette histoire là.
Moi je te dirais loin des séries, loin du cœur.
Oh.
Quand même.
Oh.
Non mais pour vrai plus moi plus les chances sont faibles en fait ben je pense que moins il y a d'intérêt quand même autour de, c'est pas vrai, il y a de l'intérêt à cause de la date limite des échanges là présentement quand ouais. Même mais je pense que les gens sont très réalistes aussi là. Et dans mon entourage, il n'y a plus personne là, qui croit que le Canadien va participer aux séries. Puis la vraie question, en fait, c'est est-ce que le Canadien va réussir à se monter une équipe à court terme? Là, je parle d'ici cet été pour être capable de compétitionner l'année prochaine. C'est la vraie question à laquelle on n'a pas encore la réponse.
Je sais pas si vous le ressentez comme ça. Je sais pas si c'est la même chose pour un Marc Bergevin. J'imagine que si plan il y a un plan. Est-ce qu'il avait envie d'en déroger pendant que le Canadien s'est retrouvé dans une séquence de 9 victoires en 12 matchs où là, ben, l'illusion se gonflait un peu pis on se dit, ah, ben, on sait jamais, tu sais, avant de placarder, de dire c'est fini. Est-ce que ça va devenir plus facile pour lui de trancher puis de prendre des décisions qui ont été difficiles dans le cas où t'es vraiment dans la course, là, jusqu'au 24 février? Tu sais, c'est pas la même chose, non?
Je pense pas qu'il a changé son plan. Je pense que ben c'était sage là, de sa part d'attendre.
Oui,
il y avait aucun rush de changer des joueurs au mois de janvier.
Ben,
le temps jouait pour lui un petit peu là-dedans. Et aussi, je pense que plusieurs joueurs vont acquérir de la valeur au fur et à mesure qu'on va approcher la date limite des échanges aussi. Là. Il y a des joueurs au mois de janvier qui valaient moins cher qu'ils le valent aujourd'hui. Donc, c'est à son avantage. Là, à mon avis, c'est très clair dans sa tête. Là. Je suis convaincu, il tergiverse pas là. À partir d'ici, là, il sait très, très bien où est-ce qu'il s'en va pour la suite des choses.
Ben, peut-être un élément, c'est que, bon, il y avait beaucoup de discussions autour de Jeff Petrie. Partira pas, est-ce que le Canadien peut s'en passer, etc. Tout à coup, avec Weber qui est absent pour vraisemblablement le reste de la saison, je pense qu'on peut tous mettre un petit 2 sur l'idée que Jeff Petrie va être encore un membre du Canadien le 25 février au lendemain de la date limite des transactions.
Mais j'irais même plus loin que ça. Je veux dire, présentement, c'est sûr que c'est à son alignement de l'année prochaine qu'il pense. C'est pas à l'alignement de cette année. Puis c'est pas non plus à l'alignement dans 2 puis dans 3 ans. Là. Le but du Canadien, là, sauf erreur, en tout cas, de moi, ce que j'entends de mes sources, c'est que le Canadien veut participer aux séries l'année prochaine. À partir de là, je vois pas comment le Canadien peut se permettre d'échanger Jeff Petrie. Je veux dire, on sait même pas si Shea Weber va revenir en santé l'année prochaine.
Tu sais, puis j'allais dire en ajout, en supplément de ce que tu disais, Simon-Olivier, c'est que même avec Weber, je vois pas comment, même quand Weber est là, je pense qu'on était d'accord avec ça. Fait que c'est sûr que, bon, est-ce que Weber est un gars fragile? Il manque beaucoup de matchs plus souvent qu'autrement ou il est juste malchanceux? En tout cas, je le sais pas, mais reste que...
C'est très inquiétant, là, je veux dire, chez Weber, il a raté quasiment une saison complète en 4 ans.
Je sais pas si c'est la même cheville ou le même pied que celui qui avait été blessé.
Ma compréhension, c'est que c'est le même cheville-pied. Puis j'ai hâte de voir aussi s'il va revenir au jeu avant la fin de l'année. On est c'est pas tout le monde qui est convaincu, en fait, de la version officielle du Canadien ici. J'ai aussi un doute. J'ai quand même un doute par rapport à ce qu'il se dit. Puis là, ce qui nous montre que Petrie, en fait, et Weber sont incontournables, c'est, je veux dire, qui on met à droite après eux, là, c'est lamentable. On va parler, là, on va faire la liste. Ouais. Okay? Il y a Christian Follin, qui a quand même été à 6-16 matchs de suite.
Et à qui Claude Julien préfère Xavier Ouellet,
qui est
un défenseur étiqueté Ligue américaine, qui fait jouer de son côté opposé. Fait que
après ça, il y a Noah Yolson, qui a pas joué, je pense, depuis le 12 décembre,
peut-être
et qui peut-être ne jouera plus jamais au hockey. Il y a Josh Brook, qui était même pas assez bon au mois de janvier pour être sur le top 6 du Rocket. Il était utilisé comme 12e attaquant.
Comme attaquant, hein?
Quand même, deux matchs. Et il y a Cale Fleury, bon, quand même, qui, je pense, a un avenir dans la Ligue nationale. Je ne pense pas que ça va être dans un top 4. En tout cas, il n'est pas parti pour être dans un top 4. Écoutez, il y a un point à 41 matchs, là, à 21 ans. Il y en a là, des défenseurs de 21 ans qui sont pas mal plus productifs que lui. Mais c'est tout. Il n'y a plus rien. Là. Il n'y a rien d'autre à droite dans l'organisation. Et Petrie devient joueur autonome sans compensation l'année prochaine. Et à un moment donné, il va falloir rebâtir très, très, très vite du côté droit.
J'entendais, comme vous le faites sans doute, on se promène et on écoute les collègues. J'écoutais un extrait d'une émission de nos collègues de 690 AM, TSN, dans la chronique de Ray Ferraro, qui disait, puis j'ai envie d'être d'accord avec lui, c'est pour ça que je le mets dans la conversation, puis je le cite, il dit, dans le fond, il dit, à part devant le filet, le temps que Carey Price est là, il n'y a pas une position où le Canadien n'a pas un besoin prioritaire.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Trouvez-vous que c'est un peu alarmiste?
Je pense qu'au poste de centre, c'est pas si mal. Je pense pas que nécessairement que c'est à l'heure actuelle, je pense pas nécessairement que c'est une ligne de centre pour d'une équipe dominante, mais je pense que si Nick Suzuki continue son ascension irrésistible, il devrait devenir dans un avenir relativement proche le premier centre du Canadien. Et une ligne de centre Suzuki, Dano, Kotkaniemi, et là est-ce que Poehling serait quatrième, ou est-ce que Domi est un joueur de centre? Je pense que le Canadien est assez bien nanti à cette position-là.
Bah, aux ailes aussi, c'est pas si mal, honnêtement.
Un regard un peu sévère, je dois dire. Là.
Ben, les ailes, c'est pas si mal. Je veux dire, quand on passe maintenant à l'horizon de 2-3 ans, puis t'as quand même t'as Gallagher, t'as Caulfield qui s'en vient éventuellement, t'as Drouin qui est très bon.
Armia est encore jeune.
Ouais, y a quand même des options. Le vrai problème, en fait, c'est la défense.
Complètement.
Je veux dire, on n'a aucune idée. Si on me demande c'est qui les 4 des 6 défenseurs dans 3 ans, je peux pas te le dire.
Dans 3 ans, ouais, non, c'est une bonne question. Parce
s'il est en santé chez Weber, parce qu'il y a un contrat pour encore 6 saisons, mais encore là.
Son salaire va diminuer drastiquement aussi. Là. Son contrat est fait en sorte que les dernières années, là, il gagne genre 3 millions, 1 million, 1 million. Peut-être que ça ne tentera pas non plus de continuer rendu long. On verra. Mais dans 3 ans, là, c'est qui les défenseurs du Canadien?
c'est une très bonne question.
Ben, je ne suis pas convaincu que Victor Mété va être là dans 3 ans. Cale Fleury va probablement être là, mais dans un rôle qui est à définir. Chiarot va être joueur autonome rendu là. Petrie va avoir été joueur autonome rendu là. C'est pas facile.
Ben, Petrie, si tu leur nouvelles, on peut présumer qu'il fait encore partie du portrait. Moi, je pense que, tu sais, si des équipes qui font l'acquisition de Jake Muzzin le prolongent puis le gardent à long terme, je vois pas pourquoi le Canadien qui a un gars de valeur à la ligne bleue, un de ses meilleurs patineurs, envisagerait pas que ce gars-là pourrait, à moins que le gars ne veuille pas.
Ce qui est positif dans le cas du Canadien par rapport à Petrie, c'est qu'il y a vraiment de la place pour avoir du temps de jeu de qualité. T'sais, si Petrie, par exemple, était un troisième défenseur à Montréal ou un quatrième défenseur, tu peux avoir le goût d'aller voir ailleurs, puis d'essayer de voir des opportunités ailleurs. Mais maintenant, Jeff Petrie, là, dans un an et demi, là, parce que comme c'est là, dans l'état des choses, il risque d'être le premier défenseur du Canadien, puis encore pour 2, 3, 4 ans. Fait, il y a avantage quand même à signer à Montréal, probablement.
C'est ça. Chez Weber, il y a ses détracteurs, il y a ses inconditionnels, mais on verra pas mieux de Shea Weber à partir de maintenant. Donc, tu sais, Petrie peut profiter de ça, mais c'est drôle parce que cette saison-ci, unanimement, n'est pas une bonne saison pour le Canadien. Et j'ai l'impression que la défense l'a eu assez facile à travers ce
dans la critique, tu veux dire?
Dans la critique, j'ai l'impression que, bon, Carey Price, évidemment, a mangé des volées de bois vert parfois et peut-être souvent mérité. Les attaquants, bon, là, c'était un Domi, un ceci. Là, après ça, c'était les joueurs. Un moment donné, pendant la longue défaite de novembre-décembre, c'était les joueurs d'attaque qui étaient trop aventureux, qui n'aidaient pas leurs défenseurs. Mais on dirait que tout le monde était un peu sous l'impression qu'un Canadien a une bonne défense, t'es pas vilain en défense. C'est pas une grande défense que le Canadien a.
Il y a quand même deux bons défenseurs. C'est-à-dire que la paire Petrie-Weber, qui jouent pas ensemble, là, mais je veux dire, un numéro 1 et 2, c'est quand même un des bons one-two-punch, à mon avis, dans la Ligue nationale.
Je suis assez d'accord, mais c'est après ça qu'on peut le voir présentement à quel point ça
trouve que Chiarot, quand même, répond aux attentes. Il est surpratoire. À mon avis, il répond les attentes. Il joue un petit peu plus, mais depuis 10 matchs, Chiarot, c'est difficile.
Je veux dire, c'est parce qu'il y a du temps de glace que normalement, qui lui est pas
réservé. Mais même avant la blessure à Weber, Chiarot, ça avait ralenti.
Depuis 10 matchs, il joue en moyenne 23 minutes. Ce qui est énorme. Puis il y a juste un point quand même en 10 matchs. C'est du temps pas très productif. Mais les autres, non, en effet, Mété, Fleury, Nemélé, c'est plutôt difficile.
Ouais. Je ne vais pas en contre-argument à ce que vous dites quand vous évaluez la défense. Je suis assez d'accord avec le portrait d'ensemble, mais moi je crois beaucoup au jeu collectif. Et je veux dire, tu as besoin des défenseurs dans ton attaque. t'as besoin des attaquants dans ta défensive. Ouais. T'es le père d'un garçon qui joue à un haut niveau, Alexandre, puis je sais pas si c'est un gars qui...
c'est un two-way player.
T'sais, Alexis Lafrenière se le fait dire depuis qu'il est dans le junior, faut que tu joues ses deux bords, puis c'est important. Puis moi, je crois beaucoup à ça, fait que tout le monde peut faire mal paraître
ben,
tout
ça
le monde.
Ça a été le problème dans la première série de 8 défaites. En fait, c'était le back-check et qui causait un problème.
Et je peux pas même, puis quitte à ce que ça soit un élément redondant, mais c'est Claude Julien qui le ramenait plusieurs de façon ponctuelle à plusieurs moments dans la saison par rapport au buy-in. Ilya Kovalchuk, ce midi, on est vendredi 14, ce midi, disait que les deux derniers matchs étaient inacceptables. Il y a une façon de jouer pour gagner, puis on s'en échappe. Donc, il le constate, les gars. Mais alors, ça, quand tout le monde applique la recette, je te dis pas que tu vas battre les Blues à tous les soirs, il y a des meilleures équipes que le Canadien, clairement. Mais quand tu appliques une recette qui vise à faire en sorte que ton gardien puisse faire la différence, là, tout le monde, tout à coup, pourrait mieux paraître. Dans la séquence de 9 victoires en 12 matchs, personne ne se plaignait de grand-chose, dans le fond, parce que là, tu as un nouveau regard sur une situation, mais ils ont joué d'une façon différente.
Un des premiers, c'est Max Domi. On a quand même beaucoup parlé de lui.
Depuis le début de l'année.
J'ai vu une étude en fin de semaine, une étude fascinante, en fait, d'un universitaire qui a fait... qui sont les meilleurs joueurs de la Ligue, en fait, en rush, les montées, qu'on pourrait dire en français.
En échappée?
Ouais, en montée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui rentre dans la zone en possession de la rondelle, qui va rapidement dedans. Donc, qui sont les meilleurs joueurs à monter? Le meilleur étant, évidemment, Connor McDavid, et de très loin, là. Même, c'est probablement le meilleur joueur à monter de l'histoire. Il y a les pires joueurs aussi. Quel joueur défendent le moins bien, en fait, contre les montées? Et Max Domi était dans le top 5. Des pires. Pas des meilleurs, des pires, tu sais.
Est-ce qu'il est mauvais contre les montées de l'adversaire ou ses montées n'aboutissent? Tu sais, ça rien.
Non, en fait, il est mauvais contre les montées de l'adversaire.
Donc, dans son repli défensif.
Exactement.
Parce que moi, j'avais envie de penser, j'ajoutais à ça, dans ces montées, il y en a quelques-unes qui ont bien tourné, il a déjà compté, mais très souvent, il y a des jeux qui meurent. L'autre jour, ça a provoqué un but, mais c'était pas une passe qu'il avait fait, mais il avait réussi à amener le jeu en fond de zone. Au moins, ça, c'était une semi-réussite qui a bien terminé.
Mais c'est un des problèmes, c'est-à-dire que le Canadien a deux joueurs sensiblement, ils ont pas les mêmes aptitudes, mais il y a deux joueurs purement offensifs, Domi et Kotkaniemi au centre. Je veux dire, tu peux pas avoir deux centres qui ne font que jouer dans une zone, dans une équipe qui aspire à faire les séries. Et c'est pour ça, quand on parle de reprogrammer Kotkaniemi, c'est que si le Canadien prévoit garder Domi à moyen terme, Domi, là, ils changeront pas, ils le reprogrammeront pas. Là. S'ils veulent garder les deux joueurs, il va falloir que Kotkaniemi joue mieux en zone défensive.
Domi, qui par ailleurs, puis là, c'était sur la question sur défendre les attaques adverses, mais il y a quelque chose de complètement inefficace dans son jeu depuis quelques semaines, et à preuve, il produit pas beaucoup, mais il se débarrasse souvent de la rondelle en rentrant dans la zone, en essayant un tir au but de très loin. Et c'est pas un joueur qui a un tir dévastateur.
On voit même affaire, moi je capote.
On reproche souvent à Lekkonen de tirer de trop loin, de pas être bon de loin, et c'est vrai, mais Domi fait souvent ça, rentrer en zone à la ligne bleue et décocher un lancer frappé qui souvent rate la cible ou est un lancer extrêmement facile à arrêter pour le gardien
de but. C'est intéressant parce que son pourcentage de réussite de tir au but est parmi les plus faibles, en fait, des attaquants d'élite là, de la Ligue nationale. Je dirais le 8%. C'est vraiment
l'an
très,
passé,
très
je serais curieux de savoir si jamais pendant la conversation, vous pouvez me ressortir, parce que l'an passé, quand il lançait, surtout dans la première tranche, dans la première moitié de saison, tout finissait bien pour lui.
Tu vois, l'année dernière,
il a pensé. Puis d'ailleurs, je me souviens d'un but qui marque dans l'Ouest. Tu es content si le club de ton équipe locale marque, mais en même temps, j'ai eu le réflexe de dire « Oh non, il va penser que ça marche à tous les fois. »
Mais tu vois, c'est bien intéressant.
14% l'an passé, OK.
Ben, c'est ça, puis en fait, c'est intéressant parce que quand il jouait en Arizona, il y a une année, il a fait 38 points en 59 matchs. OK, ça a été son année. Présentement, il y a 36 en 59. Ça se ressemble. Et les deux années, il y avait 8% de taux de réussite. L'année dernière, c'était l'exception à 13,8, 14%. Là, il est monté à 72. Mais peut-être, si son taux de réussite en carrière, c'est 8%, ben, il va se staller autour de 50 points par année. C'était peut-être l'année dernière l'exception. Je souhaite que ça soit pas le cas.
Et souvenez-vous de la perception du DG, Marc Bergevin. Il parlait pas de Domi, mais qui nous parlait d'une production offensive gonflée partout dans la ligue.
Oui,
mais sûr qu'en arrière-pensée, il y avait l'affiche de Domi.
Ben, c'est-à-dire, il y a un aspect de chance l'année dernière qui est embarqué quand même. Là, 14%, c'était beaucoup plus que son taux normal en carrière.
Kotkaniemi a 5 matchs de saison régulière de jouer avec Laval, 7 points. Beaucoup sont acquis, plus que la moitié, je pense, en avantage numérique. Puis il est à moins 3 quand même. A écopé de plusieurs pénalités. En tout cas, on verra. Je pense que c'est peut-être le début d'un processus plus long qu'on l'imaginait.
Je pense que oui. Et Joël Bouchard a été quand même assez... il parlait pas spécifiquement de Kotkaniemi. cette semaine, mais il a été assez cinglant quand même en parlant des de la chimie là, qui prend pas entre les jeunes qui viennent d'arriver et ses vétérans. Il disait que l'équipe était meilleure, en fait, quand il y avait des gars de la East Coast League, et de la ECHL et des vétérans.
Ben, c'est quelque chose qu'il a dit également le soir du premier match de Kotkaniemi. Je pense que le Rocket, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que le Rocket ne va pas super bien. On n'arrête pas de parler du Rocket qui reste dans la course.
Il s'éloigne des séries.
Avec les meilleurs espoirs qui sont encore en uniforme.
Mais cela dit, quand Kotkaniemi était cédé à Laval, je pense que c'était clair pour tout le monde que c'était pas pour trois matchs. C'était pour au moins la fin de la saison. Fait que, tu sais, on se l'est dit aussi à ce micro-là et ailleurs que ça, jouer dans la Ligue américaine, même pour des joueurs dont on s'attendrait à ce qu'ils soient meilleurs que ce niveau-là, ben ça se fait pas du jour au lendemain, là, de prendre le rythme.
Non, bien, puis en fait, ce que Bouchard racontait cette semaine, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui ont des agendas personnels. Puis Bouchard aimerait ça que ces joueurs-là mettent leur agenda de côté. Je veux dire, quand ils parlent d'agenda personnel, on peut présumé, en fait, que ce sont les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver dans l'équipe. Non, mais en fait, il disait que ça fonctionnait bien avec les gars qui étaient là depuis, mettons, 2-3 mois avec l'équipe et que là, depuis quelques matchs, la mayonnaise apprend pas. On peut présumer que c'est les jeunes qui viennent d'arriver. Là.
Ben, c'est quelque chose qu'il disait exactement après le premier match de Kotkaniemi et alors que Poehling n'était pas encore descendu et Fleury venait tout juste d'arriver. Ouais. Il y a clairement quelque chose qui tourne pas rond chez le Rocket. Mais qu'il y a juste 2 victoires à ses 10 derniers matchs. Et j'ai fini par trouver le chiffre. Mais il y a ceci de particulier de la Ligue américaine, c'est que c'est un amalgame de toutes sortes de joueurs. Tu sais, là, on est super content de voir présentement Jake Evans qui va bien à Montréal, tu sais, qui nous donne des bons moments. Toujours le même, j'ai l'air d'aller voir juste un match de la Ligue américaine cette année, mais toujours ce soir-là du premier match de Kotkaniemi à Montréal il y a 2 semaines. On est en prolongation et Jake Evans a la rondelle et est avec Kotkaniemi et Kotkaniemi est très bien placé et attend un tir et Evans l'a jamais regardé et a pris un tir très ordinaire sur le gardien. Et le Rocket a perdu. Je veux dire, chaque joueur joue pour lui-même.
En fait, c'est l'expression de Joel Bouchard, elle est vraiment intéressante. Il parle de contracteurs.
Ouais, c'est des contractuels,
des contracteurs individuels.
Ouais, exact.
Ils jouent tout juste pour eux autres. Puis ça fait pas une équipe. D'ailleurs, si on regarde les stats des jeunes qui sont descendus, ce qui peut laisser entendre qu'il va rester longtemps, là, tu sais, Cale Fleury, 6 matchs, moins 6.
Ah, Fleury, il y a quelque chose.
Kotkaniemi, 5 matchs, il y a 7 passes, il n'y a aucun but, moins 3. Ça va pas, ils
Poehling,
ont à apprendre.
Poehling non plus, fracasse rien, alors.
Ils ont des choses à apprendre encore, là, avant de remonter. Là.
Comment vous voyez ça? J'en parlais avec Danny Dubé hier, là. Si les deux clubs manquent les séries, est-ce que ça change l'opinion de Jeff Monson? Est-ce que ça change l'opinion de Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt, de l'englobe de la gang dans l'évaluation d'une année d'organisation?
Ben c'est sûr que je l'annonce tout de suite. Hein, il va y avoir une chronique d'ici la fin de l'année où je vais calculer toutes les fiches des équipes de la Ligue nationale et leur club école de la Ligue américaine. C'est sûr que si t'es dans le top 5 en bas, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Le Canadien peut toujours se défendre en disant que ses 2 meilleurs espoirs ne jouent pas au sein de l'organisation présentement, donc Caulfield et Romanov. Il reste que si t'es dans le top 5 ou dans les 5 derniers. Les 2 fiches combinées ensemble, c'est pas bon signe.
Mais c'est pas rare que les bonnes équipes de la Ligue nationale aient une équipe de la Ligue américaine qui performe bien. L'une nourrit l'autre. Et souvent, les deux vont de pair. Fait que, je veux dire, les dernières années, ça se passait pas bien à soit à Saint-John ou ensuite à Laval. Ben le Canadien, après ça, avait pas grand-chose à puiser à Saint-John ou à Laval. L'exception à la règle, présentement, c'est peut-être les Sénateurs, alors que les Sénateurs ont une des plus belles banques d'espoir de la LNH et beaucoup jouent encore à Belleville. Mais sinon, les meneurs de la Ligue ou de la Division Atlantique, c'est les Bears de Hershey, qui sont le club école, je crois, des Capitals, est-ce que je me trompe?
Oui, t'as raison.
C'est deux équipes.
Il y a beaucoup d'affiliations qui ont changé, c'est difficile de tout garder en mémoire.
Mais en fait, ce qui est un peu dangereux, c'est qu'une équipe normale, je veux dire, les Capitals, par exemple, c'est une équipe qui normalement devrait avoir de la profondeur, donc un bon club, des ligues mineures. T'sais, une équipe en reconstruction, normalement, il faut que tu aies un bon club en bas. Il n'y a pas de logique à ce que ton club soit. Ce qui est le cas des Sénateurs. Le Canadien est dans le cas d'une réinitialisation. Ça démontre, en fait, si le Rocket gagne pas, ça démontre le manque de profondeur de en haut à en bas dans l'organisation.
C'est que pour, je veux pas encore une fois qu'on engage un débat de sémantique, mais tu sais, pour reconstruire, ça prend des outils, puis donc t'es condamné à faire des resets tant que t'as pas d'éléments pour vraiment reconstruire. Ouais. Je pense qu'à la limite, tout le monde est tout le temps sur un reset continuel, là, juste à cause des masses salariales.
Ben, presque tout le monde. Je dirais presque tout le monde.
À part quand t'as un bon noyau que tu peux, tu sais, c'est...
Ouais, c'est ça, mais presque tout le monde. Ouais.
Tu regardes Boston, Washington, c'est de greffer des pièces, mais le moteur est là. Pittsburgh,
mais mettons,
c'est la même
présentement,
affaire. Washington.
Il y a à peu près 25 équipes présentement qui continuent, là. Je dis qu'ils sont en réinitialisation ou qui continuent l'horaire d'aller, mais il y a quand même 5-6 équipes présentement là, qui sont dans un mode de reconstruction. Tu sais, je pense les Rangers n'ont pas fini, ils sont même loin d'avoir fini. Les Kings, les Red Wings, les Sénateurs aussi sont pris là-dedans. Yann a quand même des équipes.
C'est des équipes dont on voit que ça va être long.
Ouais, non,
les Red Wings, là, c'est pas une question.
Les Red Wings,
ils savent d'emblée qu'ils feront pas les séries l'an prochain, probablement pas dans deux ans.
Mais c'est intéressant ça, parce que je pense qu'il y a de la pensée magique chez les partisans de se dire, hey, une reconstruction, ça va prendre deux ans ou trois ans, là, ça prend pas. Je l'ai calculé, là, cette année, c'est en moyenne 6 à 7 ans, une reconstruction, avant de refaire les séries, pas de gagner la coupe, là.
Mais tu te bases, avant de refaire les séries. Sur quoi tu t'appuies, Alexandre?
En fait, j'ai regardé toutes les équipes qui ont raté les séries 3 saisons de suite, puis qui ont pêché au moins une fois dans le parmi les 5 premières. Donc, il y en a 25 clubs qui sont passés par là. Et c'est ça. La moyenne, en fait, de saison sans participer aux séries parmi ces clubs-là, c'est 7. Je tiens déjà à dire que le Canadien, techniquement, va rentrer dans ce groupe-là cette année en ne faisant pas les séries. Ils ont repêché dans le top 5 avec Kotkaniemi il y a 2 ans. Donc, ils vont théoriquement...
Et Galchenyuk, c'est en 2012?
Ah oui, en 2012.
2012, ça fait que c'est 2 fois en 7 ans dans le top 5.
Ben quand même, là. C'est mieux que beaucoup d'équipes. Là.
Mais il y a une, je sais pas s'il y a une espèce d'opinion répandue que l'exemple c'est les Maple Leafs, c'est-à-dire qu'ils ont choisi Auston Matthews et ils ont fait les
J'espère
séries, peut-être
pas
la saison
dont on s'inspire.
Mais je pense pas que les résultats sont pas là pour eux. Mais mon point étant que les gens voient les jeunes les Maple Leafs qui sont tous arrivés en même temps, Matthews, Marner. Nylander, excusez-moi. Et faut pas oublier que les Maple Leafs, c'est une reconstruction de 10 ans, de 12 ans.
C'est de 2006 à 2016, les Maple Leafs, quand même.
Il y a eu beaucoup de plans successifs dans ce tour-là. Et c'est éventuellement quand Shanahan est arrivé et a restructuré l'organisation que ça a fini par marcher.
C'est super intéressant à faire parce que les Maple Leafs ont essayé une première reconstruction en 2006 et 2013. Ils l'ont raté, en fait.
Ah, complètement. Mm-hmm.
Ils l'ont raté. Celle avec Nazem Kadri, Phil Kessel, ça n'a pas fonctionné. Ils en ont recommencé une deuxième après, là. Donc, mais ils ont participé une seule fois aux séries en 2006 et 2016. Quand même, c'est pas glorieux. Il y a bien pire que ça.
Honnêtement, les gars, on aurait vécu ça à Montréal. Puis j'espère qu'on ne vivra pas.
Mais il y a bien pire que ça.
On n'est pas dans une séquence positive. Regarde Edmonton. Connor McDavid a joué 2 rondes éliminatoires à date. Là, ils ont atteint la finale en 2006 depuis une participation aux séries. Puis ils en ont eu des premiers choix.
Attends, regarde, je vais te faire un quiz, Mario. Okay. Sais-tu combien de premiers choix les Oilers ont eu depuis 2007?
4.
Oui, 4. Et sais-tu combien de rondes des séries ils ont fait depuis 2007?
2. Ils n'ont gagné une.
Attends, quand même, là, tu sais, quand tu y penses, c'est horrible. Là.
C'est horrible, tu dis.
Mais il y a pire, les Panthers de la Floride en 2001 et 2011, ils sont sortis d'une reconstruction de 10 ans. Leurs 2 meilleurs joueurs, c'était Dmitri Kulikov et Eric Gudbranson. Ça peut ne pas fonctionner. Là. Il faut juste être conscient de ça.
Vite fait, là, quelle est l'équipe canadienne qui a le plus ravi ses fans dans les 10 dernières années? Tu sais, c'est ceux qui en ont donné le plus.
Les Flames, les Jets. Ouais.
Les Jets, cette année, c'était la catastrophe en défense, là, qui ont perdu tous leurs défenseurs ou presque en même temps. Mais les Jets étaient vraiment sur la bonne voie. En fait, les Jets auraient dû se rendre plus loin l'année dernière.
Le Canadien a 2 finales de conférence dans ces 10 dernières années-là.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit mieux pour une équipe canadienne?
Moi, les Flames, quand même, ont eu une très bonne séquence là, entre 2014-2017, quand même. Ils ont même eu une saison de 107 points l'année dernière. Ça va quand même bien, les Flames. Ils ont un potentiel. C'est une équipe qui peut se rendre en demi-finale.
Moi, je pense que c'est Vancouver, dans le fond. Mais il faut dire que Vancouver est canadien depuis... Parce que Vancouver, avec l'ère des Sedines, a pris fin tranquillement. Maintenant, tu recules de 10 ans. En 2019-2020, on va retourner à 2009-2010, Vancouver perd en deuxième ronde, perd en finale l'année suivante. Après ça, ils ont jamais regagné une ronde éliminatoire, mais ils ont atteint les séries 3 autres fois.
Ouais.
Mais ils ont raté les séries 5 fois sur 6 depuis 2013-2014. Ça ressemble aux Canadiens.
Ouais, leur noyau de joueurs, présentement, c'est Peterson, Besser, Quinn Hughes, Jake Vertanen. C'est pas mal plus fort que le noyau de joueurs du Canadien.
C'est inspirant parce que les autres sont rendus, puis leurs jeunes prouvent qu'ils peuvent avoir du succès déjà.
C'est Ottawa. Ils se sont quand même rendus à un match, je pense, sauf erreur, là, de gagner la Coupe Stanley.
De se rendre en finale
de la Coupe Stanley. Ils ont aussi tout un noyau là, de jeunes joueurs qui est vraiment supérieur à celui du Canadien. Là.
Ottawa, c'est intéressant, c'est vrai, avec Carlson qui avait presque amené les Sénateurs en finale à lui seul.
Il y en a eu des bons joueurs, dans la dernière décennie, là, Ottawa, là, quand même. Là. Carlson,
d'excellents joueurs, vite
Anderson.
Fait. Une chose que les Canucks ont bien faite, c'est de repêcher faire des bons choix au premier tour, mais en repêchant pas dans les 3 premiers.
Ouais.
Quinn Hughes, c'est pas un top 5. Peterson, c'est pas un top 5.
Besser non plus.
Beauharvat est un 10e ou un 11e qui est rendu leur capitaine maintenant. C'est vraiment, ils ont réussi à faire des choix stratégiques en étant bon, bien positionné, on s'entend un choix top 10, ben, c'est
du talent.
Non, mais on va toujours en revenir, en fait, à la faiblesse du repêchage du Canadien. Là, c'est un clou qu'on peut frapper.
On pourra parler chaque semaine.
Mais tu sais, j'ai regardé hier, je m'amusais avec Guillaume Lefrançois hier, qui est notre collègue de la presse. Trevor Timmins, depuis 2002, n'a repêché aucun joueur qui a réussi une seule saison de 70 points dans la Ligue nationale, ici ou ailleurs, là.
Comment vous réagissez? Puis là, je m'en prends pas un collègue, ce sont tous des gars qu'on respecte. Là, Mathias, je pense, signe un texte cette semaine dans la presse. Honni à Montréal, adulé à l'extérieur en parlant de Trevor Timmins. J'ai des conversations qui riment à ça avec Stéphane Leroux également. Est-ce que c'est des articles pour semer la controverse? Je sais pas, Mathias.
Non, je pense que Mathias la pense vraiment.
Mais c'est je trouve ça étrange. C'est comme, tu sais, le gars, ça fait à peu près 17 ans qu'il est là. Puis, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, là?
Ça dépend de la manière avec laquelle on analyse. Si on a une bonne vieille analogie de baseball, est-ce qu'on préfère un joueur qui va frapper pour 300 tout le temps ou pour 270 puis toujours faire des simples ou on aimerait ça un circuit une fois de temps en temps? C'est les deux manières d'analyser Trevor Timmins. Timmins l'a pas sorti du stade souvent, mais le bassin d'espoir actuel du Canadien a beaucoup de joueurs qui sont étiquetés comme futurs joueurs de la Ligue nationale, mais peut-être pas de joueurs élites, peut-être à l'exception de Cole Caulfield. Le fameux classement de Wheeler, son nom, le gars de l'Athletic cette semaine, c'est ce qu'il expliquait. Il disait...
Ça s'appuyait là-dessus, d'ailleurs,
l'article. Il y a beaucoup de joueurs, le Canadien, qui sont bien positionnés, mais à part Caulfield, qui voit comme un marqueur de 40 buts, d'ailleurs, je sais pas, les gens qui attendaient Romanov l'année prochaine pour sauver le Canadien, j'espère qu'ils n'ont pas lu ce texte-là parce que ça va ruiner leur fin de saison.
Pourquoi donc?
Il disait que Romanov, lui, le voit comme un bon joueur, mais le voit pas nécessairement comme un défenseur élite à court ou moyen terme. Il pense que peut-être un gars qui pourrait évoluer sur la deuxième unité d'avantage numérique, pas plus haut que ça. Après ça, bon, on s'entend, ça reste son opinion, notre opinion.
Mais comment il fait pour établir que le Canadien est la deuxième équipe s'il dévalue un de ses principaux prospects?
Parce que le Canadien a beaucoup de prospects qui se rapprochent de la Ligue nationale. Mais après ça, est-ce que c'est des prospects qui vont très bien faire la Ligue nationale ou qui vont trouver... Tu sais, il y a beaucoup de gens...
C'est ça que tu veux dire, pour prendre ton image?
Il y a beaucoup de gens qui aiment voir le nombre de matchs joués comme un élément probant. Puis effectivement, c'est intéressant. Donc, Timmins, si on faisait l'addition de tous les matchs joués par les joueurs qui ont repêché, c'est sûr qu'il y aura un bon score. Mais après ça, le fait d'avoir sur 17 ans aucun joueur qui a fait 70 points dans la LNH.
Je pense que Trevor Timmins est un bon évaluateur, je veux dire, pour les gardiens. Il a quand même eu Halak et Price. À la défense, sur 17 ans, il a quand même trouvé au moins 4 bons joueurs. Là, je veux dire, il y a eu Subban, il y a eu Mark Streit, il y a eu McDonough.
Streit, c'est Pierre Gauthier.
C'est
un contractuel, c'est pas un choix repêchage.
C'est un choix repêchage.
Il était relativement...
Subban, il y a eu McDonough, il y a eu Sergachev. Il y a quand même eu des bonnes prises en défense puis dans les buts. En fait, le vrai problème, c'est en attaque. Au centre, présentement, de tous les joueurs repêchés, il y en a 2 présentement des centres. Et 2 joueurs ont été repêchés au centre, jouent dans la Ligue nationale présentement. Il y a Galchenyuk sur une 4e ligne avec le Wild, qui est probablement l'avant-dernier club le plus pourri de la Ligue. Puis il y a Jacob Delarose, qui joue avec le pire club de...
Il y a des années que je vais en convenir. Puis de toute façon, je reviens même pas que le débat soit autour de la personne. Moi, c'est pas la personne, c'est les résultats, là. Tu sais, je le connais même pas, le gars, personnellement, là, à part l'avoir croisé une couple de fois. Fait que c'est pas de savoir on l'aime-tu pas. C'est t'as-tu des résultats ou t'en as pas.
Il y en a eu vraiment, là, les 5-6 premières années.
Ouais, mais
il était là.
J'arrive là. Il y a des mauvaises années de repêchage. Tu sais, il y a des années, tu regardes. Tu sais, l'année de Galchenyuk, c'est pas une grosse année. Tu sais, tu dis. Mais, cela dit, il aurait pu repêcher Forsberg ou d'autres gars, puis tu sais, il y a eu des bons joueurs. Prends l'année 2007, qui est un repêchage sur lequel il surfe encore dans l'opinion de ses défenseurs. T'aurais joué au dard cette année-là, là.
Oui.
T'aurais joué au dard avec les noms, puis t'aurais eu un bon repêchage, à peu près. Je veux dire, c'est une grosse, grosse cuvée. Fait que je veux pas y enlever le mérite, là. Tu sais, il a choisi Pacioretty, il aurait pu choisir bien d'autres joueurs, il a choisi... Piqué, ça a été son home run, on peut dire, là, des années qu'il nous a donné à Montréal. Tu penses que c'est son plus gros home run, Piqué, avec Gallagher, mettons? Non?
Pour les joueurs d'avant?
Ah, pour les joueurs...
Price, je sais pas si c'est un home run. Price, c'est la décision d'André Savard,
il a gagné un trophée Hart, là.
Quand tu repêches 5e, j'appelle pas ça un home run, j'appelle ça « trompe-toi pas ».
Je comprends ton point.
Mais c'était quand même gâté, parce que, souvenons-nous, le Canadien avait quand même José Théodore à l'époque.
Un choix de 5e round, tu t'as volé les signaux comme les Astros. Non, mais je sais pas.
Non, mais souvenons-nous, là, moi, je me souviens que quand le Canadien a repêché Price, j'en revenais pas, honnêtement, parce que le Canadien avait Théodore qui venait de gagner, là, un an ou deux avant le trophée. le trophée Hart. Il était beaucoup question plutôt de Gilbert Brûlé. Hein, c'était le joueur que tout le monde voyait au cinquième rang et tout.
Et
Kopitar aussi, là, c'est les deux joueurs qui étaient visés.
Benoît Pouliot aussi était mentionné.
Il avait été passé juste avant, c'est ça. Mais tu sais, quand on regarde après Price, à part Kopitar, c'était le bon choix là, Price quand même. Là.
Oui, probablement. Puis d'ailleurs, il est encore là, puis il fait encore la job. Je sais pas quelle évaluation de lui-même va faire de sa saison, mais ça, c'est un autre sujet. 1466 tirs contre Carey Price cette saison. C'est le gars qui voit le plus de caoutchouc dans la Ligue nationale.
J'ai lu ce midi là, une étude faite par quelqu'un là, qui travaille pour Sport Logique, qui est une compagnie montréalaise de statistiques avancées. Et je pense que Carey Price est dans le top 5 ou 6 là, des meilleurs gardiens de la Ligue pour les buts sauvés. Mais évidemment, c'est parce qu'il est tout le temps dans les buts aussi. Là. Mais ce qui est intéressant avec cette statistique-là, c'est que dans les 7 pires équipes, je pense qu'il y en a 6 qui ont congédié leur entraîneur. Celles dont les gardiens vont pas bien. Là.
Puisqu'on parle des carences du repêchage, on se réjouit, je pense que tout le monde se réjouit de voir comment Nick Suzuki grimpe les marches de l'escalier vers une carrière fructueuse et à long terme dans la Ligue nationale de hockey. Il a vraiment gravi les échelons, il a gagné l'estime de son entraîneur, puis tu sais, pour les gens qui disent que Claude Julien pas est jeune, ben je sais,
jouer à Moses cette année, de la ligue là.
Oui, puis je veux dire, il confie des responsabilités, peu importe l'âge du gars, à ceux qui sont capables de les prendre, il a clairement démontré qu'il était capable de faire ça. Jake Evans a joué, je pense, dans les dernières minutes de jeu d'un match cette semaine que l'équipe a gagné, il venait d'être rappelé en désavantage numérique. Alors, je trouve que c'est un faux débat, mais si je vous lance comme ça, puis ça va peut-être une autre façon d'évaluer ce que le Canadien a. Nick Suzuki, complétez la phrase. Et le meilleur jeune joueur à avoir percé l'alignement du Canadien depuis...
Piqué, probablement.
Je dirais depuis Brendan Gallagher.
Gallagher, sa première saison, on
a su assez rapidement que ça se passerait pour lui. J'ai pas nécessairement ses chiffres sous les yeux de combien il avait eu de points à son année recrue.
Ouais, mais il a pas perdu du temps, lui.
C'est un joueur qui s'est quand même établi. C'est drôle parce qu'il avait été... Il avait été retiré de l'alignement pour le premier match de la saison. Je sais pas qui ramenait cette anecdote-là récemment, mais le tout premier match de la saison, cette année-là, c'est l'année du lockout de la demi-saison, le 2012-13. Il était pas de l'alignement du premier match, il était du deuxième, pour des raisons évidentes, il en est jamais sorti. Là.
Ah, ok, c'est pour ça qu'il a joué autant de matchs à l'avant. Ben, il en a pas joué tant que ça, il en a joué 36. En attendant que le conflit se règle.
C'est exactement ça. C'est un journaliste qui demandait de parler de Kotkaniemi puis de la vie dans la Ligue américaine, puis il disait, j'en ai pas eu un gros échantillon. Moi, j'étais là l'année du lockout, et à peu près ça, j'étais dans la Ligue nationale direct.
La bonne nouvelle, le Gallagher a 27 ans. Tant qu'à moi, c'est un Canadien pour la vie, là, à moins qu'il soit plus capable de marcher de la façon dont il joue dans quelques années. Il a 27 ans, il va avoir 28 ans bientôt. J'imagine qu'on va le prolonger. Donc, c'est un gars qui, quand Suzuki va, parce que je pense que Suzuki, quand tu regardes ce qu'un Gallagher t'amène, je les compare pas comme style de joueur, mais l'impact que chacun à leur façon auront. Ouais. Suzuki ressemble à un gars autour duquel tu peux bâtir quelque chose. Là.
Oui. Non, moi, je pense que oui. Si tu regardes, là, souvent, on aime ça regarder c'est qui les 4 meilleurs joueurs d'une concession, puis les 4 joueurs autour de lesquels les équipes construisent. Mettons, pensons aux Pingouins. Fleury, Crosby, Malkin, puis Le Temps, par exemple. Là, si on regarde le Canadien, clairement, Suzuki va être dans ce top 4-là pour les 6, 7, 8 prochaines années. Il est déjà probablement... je pense qu'il est déjà.
Hey, les gars, permettez-moi de revenir sur le match à Boston. Toute une équipe, hein? Les Bruins, là, toute une équipe. Je veux rien enlever aux Canadiens ce soir-là. Mais au-delà de ça, comment avez-vous réagi... La scène du double échec, bon, il y a le dardage de Marchand, c'est Marchand, peu importe, mais le double échec à Gallagher, tu sais, sur le coup, je l'ai regardé au ralenti, là, c'était violent, là, c'était pas une caresse. Est-ce que le Canadien a besoin d'un Tom Wilson, d'un de ces gars-là? Je sais que ça court pas les rues, là, mais tu piles sur l'orteil d'un Bruins, tu as l'équipe sur le dos, tu donnes un double échec à la face de Gallagher, puis il se passe rien. Même si on veut pas retourner 25 ans en arrière, puis à l'air des bagarreurs, je veux dire, c'est quand même un sport de guerrier. Plus tu avances dans le calendrier, plus tu arrives proche de la fin de la saison, plus tu entres en série, tu as besoin de gars qui sont capables de maintenir un certain ordre, non?
Ben Dieu sait que je suis contre la bataille, là. Je pense que j'ai écrit 42 chroniques là-dessus. ceci dit, ça prend quelqu'un qui est capable de jouer physique. Au-delà du geste de Gallagher, ce qui m'a un petit peu plus déçu, c'est sur justement le dardage contre Jeff Petrie. Bon, Petrie s'est fait justice, c'est lui qui s'est ramassé au banc des punitions. Puis le Canadien, présentement, c'est plate, là, mais il peut pas se permettre d'envoyer Jeff Petrie au banc des punitions, là. Et je veux dire, sérieusement, les Bruins savaient très, 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 très bien ce qu'ils faisaient en sortant Petrie, là. Le Canadien, ben justement, oui. plus Petrie, plus Weber. Et moi, je pense que ça va être le danger, en fait, d'ici la fin de l'année. Puis l'année prochaine, si Weber revient pas rapidement puis qu'il est pas remplacé, toutes les équipes vont viser Jeff Petrie, là. Je veux dire, c'est ça qui va arriver. Petrie est assez fort pour se défendre. Ça en prend un autre. Mais moi, je pense que c'est là que le Canadien doit agir à la date limite des échanges pour protéger Petrie. En fait, de la même façon qu'au baseball, on va mettre un
protéger
frappeur.
Protéger l'équipe.
Oui, non, mais tu sais, au baseball, on va embaucher un frappeur pour protéger l'autre. Dans ce sens-là, c'est ça, exactement. Le Canadien va devoir faire ça pour protéger, à mon avis, Petrie. Puis il devrait faire une pierre deux coups puis aller chercher un défenseur qui est très physique.
Un Zadonov, là?
Ben, le Canadien a souvent été lié à des rumeurs d'échange avec Zadonov.
Zadorov, pardon. Il est plutôt,
c'est un joueur qui est limité, honnêtement, là. Mais oui, qui a une grosse présence offensive. Emeline, hein, souvenez-vous-en, avec
il
le Canadien.
Il est plus pareil pour un gars limité. Mais c'est parce qu'il est moins limité quand c'est le temps d'aller dans le coin, par exemple.
C'est un genre de Emeline.
Parlez-en à Jesperi.
C'est ça. Mais c'est un genre de Emeline. Mais tu sais, Emeline n'a pas été remplacé dans l'équipe, là. Ça manque aux Canadiens, un gars comme
Emeline. C'est pas un joueur extrêmement doué, mais il y a Derek Englund présentement à Vegas qui, je pense, a de la misère un peu à faire. Il vit pas ses meilleurs moments. C'est un gars qui est en fin de contrat. Je sais pas si les Knights pourraient être des bons interlocuteurs pour le Canadien, mais je pense que c'est justement le genre de vétéran.
Un Ryan Reeves.
Pour une fin de saison à la défense qui pourrait venir justement donner un coup de main aux Canadiens qui coûterait pas extrêmement cher. Surtout que les Knights risquent d'être encore actifs sur le marché des échanges parce que, comme toutes les équipes de la division Pacifique, ils ont une chance de finir premier de leur division. Alors, s'ils veulent s'améliorer, je pense qu'un joueur comme ça, je suis assez d'accord effectivement qu'un vétéran plus robuste pourrait venir aider. Mais sur la séquence Gallagher contre Chara.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression d'avoir le même discours tout le temps, mais que fait la Ligue nationale? C'est un double échec en plein visage. 5 000 tout le monde est parti à rire hier en voyant
crédible,
ça. Ça n'a aucun sens. Puis, t'sais, en plus, il compte Gallagher, qui est un joueur qui va se défendre. Je veux dire, on s'entend qu'il n'est pas à armes égales.
Il y a un pied d'écart entre les deux joueurs.
Il n'est pas à armes égales contre Chara, mais de toute façon, Chara, personne à peu près va y aller le chercher pour se battre ou pour quoi que ce soit. Mais comment ça se fait que sur le jeu, d'abord, Galchenyuk a eu la même punition que Chara, et ensuite que dans les jours suivants, donc le lendemain, que Chara a juste 5 000 $ c'est pas un joueur robuste dont le Canadien a besoin, c'est d'être mieux protégé par les arbitres et par la Ligue.
Je suis tout à fait d'accord. Puis c'est là aussi qu'on se rend compte de l'importance de Shea Weber dans l'équipe. Je l'ai écrit cette semaine, là, un joueur qui m'a raconté cette année que quand Shea Weber dans l'alignement, tout le monde grandit d'un pied. Là, c'est vrai.
Même s'il se bat pas.
Absolument, totalement.
Chara se bat pas souvent.
Non, mais
il règle un cas par trois mois, puis il va me dire une affaire, t'as le règle.
Quand la rondelle est dans le coin, je pense, puis que, mettons, là, qu'un de tes coéquipiers fait une niaiserie, là.
Il y a une autre façon de le faire payer.
Ben, il va faire payer un autre joueur, puis il va le ramasser dans le coin. Je veux pas être dans le coin en même temps que chez Weber. Pas aller chercher une rondelle, là, tu sais.
Ouais.
Puis, je trouve que, là, on va se rendre compte. C'est pour ça que je trouve ridicule les partisans ou les commentateurs qui disent, on devrait échanger Weber, on devrait échanger Petrie, jeunir, puis aller prendre des choix. Avez-vous idée, je veux dire, la présence physique de ces deux joueurs-là dans l'alignement, puis à quel point des gars comme Suzuki puis comme Peeling, puis ils se feraient ramasser.
C'est ridicule.
C'est mal comprendre comment fonctionne une équipe de hockey. Là.
Et là, en plus, tu parles du travail dans le coin, mais là, on l'a pas trop vu contre Boston et surtout pas contre l'Arizona, mais Carey Price va commencer à avoir plus de visites. Là. Tout à coup, dans son demi-cercle, Weber fait beaucoup de travail devant le filet, parle beaucoup, tasse beaucoup de monde, fait un énorme travail.
Victor Mété fait pas ça, non?
Un coup de double échec. Ben, tu sais, chacun.
C'est
Samuel Girard à Colorado. Si on évite des fois de prendre un joueur qui joue ailleurs que chez le Canadien, ça te permet d'avoir un regard moins cynique parfois sur certaines situations, moins sévère, je sais pas, on voit. Mais prends un gars comme Samuel Girard ou d'autres défenseurs qui physiquement se ressemblent, ils trouvent d'autres façons de bien jouer défensivement, très actifs avec leur bâton, un bon jeu de jambes, mais c'est sûr que physiquement, ils peuvent pas accoter des gros attaquants.
Ben là, mais
Samuel Girard arrive dans le même coin que, je sais pas, trouve-moi un gros attaquant, là, Ryan Reeves, ou Patrick Maroon, Kreider, Tom Wilson, tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'il trouve une... Il s'est fait étamper dans une série l'an passé, d'ailleurs, je me souviens pas par qui, là, mais je te dis que...
Mais cela dit, puis on en a déjà discuté, un gars comme Samuel Girard, comme un gars comme Torrey Krug, qui sont des défenseurs qui sont plus petits, puis ils peuvent pas évidemment avoir l'impact d'un Chara ou d'un Weber, mais également qui font payer le prix à l'adversaire en avantage numérique ou le côté offensif.
Oui.
Puis c'est...
Après, ils amènent quelque chose.
Pour Victor Mété, précisément, c'est dans l'impasse dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que je pense que tout le monde est prêt à vivre avec le fait que c'est un petit défenseur. Je pense qu'on qu'on va s'en aller vers ça plus les années passent en Ligue nationale. Mais
c'est
un joueur qui est pas capable de produire comme il faisait dans le junior. Et là, ce matin, il s'est entraîné sur l'avantage numérique à la place de Charrot. Je pense que c'est une bonne chose pour Charrot, pauvre lui qui a rien à faire là.
Il y a une affaire que tu peux pas y enlever. Il est rapide, puis il est capable de transporter la rondelle. C'est vrai, c'est quelque chose que je trouve qu'on n'utilise pas chez lui. Je te dis pas que c'est le gars qui a la meilleure vision pour faire des jeux géniaux, la passe transversale, peut-être pas, mais il y a clairement des outils que tu peux utiliser quand il te manque des gars sur cette unité-là.
Mais je pense que là, c'est intéressant de le voir en avantage numérique, d'avoir une vraie chance alors qu'il n'y a plus personne d'autre autour de, tu sais, après lui, de dire, bon, ben c'est peut-être le temps où Mété va se lever puis nous montrer ce qu'on attend de lui depuis 3 ans.
Là. Avez-vous couvert, je sais pas si j'ai pas vu les résultats de ça, je m'excuse, chers auditeurs, auditrices, mais le concours, les concours d'habileté dimanche dernier, Domi a gagné le concours de vitesse, mais je sais pas si Mété y participait, parce que Mété est rapide, je serais curieux de les voir.
Écoutez, c'est Guillaume, mais je m'en souviens plus.
Guillaume, qui était là pour nous.
Okay, non, mais en tout cas, mais Mété est vraiment rapide, là. Puis lui aussi est rapide, c'est parce qu'il y a des grandes enjambées, c'est peut-être ça paraît moins.
Mais je pense pas que le problème de vitesse, c'est le Canadien. C'est ça.
Ben non.
Tu sais, à un moment donné, la date limite des échanges approche, là, c'est lundi dans 10 jours. Là,
ça vient vite.
Puis, ou bien le Canadien fera rien, mais moi, je doute, là. Moi, je pense que le Canadien va agir. Le Canadien doit se renforcer pour l'année prochaine.
Dans quel sens? Allons-y dans cette direction-là.
OK, ouais, absolument. Moi, je pense que le Canadien doit se renforcer pour l'année prochaine. Je veux dire, l'objectif du Canadien, là, de l'organisation doit être de faire les séries l'année prochaine. Il faut qu'il se renforce.
Ben oui, mais...
Ça va être très difficile de se renforcer cet été sur le marché des joueurs autonomes, là, pour 1 million de raisons, là. Les joueurs, ils signent moins ici, puis il n'y a pas nécessairement tant de qualité non plus cette année. Donc, si le Canadien veut aller chercher des joueurs, c'est le moment, là, d'y aller dans les 10 prochains jours.
Ben, il y avait, c'est notre collègue Mathias Brunet qui l'a écrit ce matin dans son infolettre, la rumeur qui envoie que le Minnesota voudrait se départir de Spurgeon et Dumba. Et que Max Domi pourrait être une monnaie d'échange intéressante alors que le Wild veut rajeunir sa ligne de centre ou avec Stahl et Koivu qui ont 35 et 36. Je sais pas lequel a 35, lequel a 36. Si c'est une vraie rumeur et si c'est une vraie transaction qui pourrait prendre forme, que ce soit un pour un ou que le Canadien peut-être bonifie son offre pour Dumba, je pense que c'est le genre de transaction qui pourrait avoir un gros impact chez
Canadien. Les deux équipes combleraient chacun un besoin. Moi, un joueur que j'aime beaucoup, en fait, mais c'est un joueur de la Ligue américaine, il s'appelle Connor Timmins. Il joue pour l'Avalanche du Colorado. C'est un défenseur droitier, offensif, 6 pieds 2, 200 livres, qui a eu une très, très grosse blessure l'année dernière. Une commotion cérébrale, il a raté toute la saison dernière. Mais là, il est revenu au jeu, il s'est blessé il n'y a pas longtemps, mais là, il est revenu au jeu. Puis depuis qu'il est revenu, il est quasiment à 1 point par match. Tu sais, le Canadien n'a pas de talent offensif très, très, très évident là, chez ses défenseurs d'avenir. Ça lui en prendrait un. Moi, je serais prêt à sacrifier un des jeunes attaquants de l'organisation pour aller chercher un joueur comme Connor Timmins.
Et tu penses à qui?
Ben, un gars comme Ryan Poehling. Avoir de la qualité, il faut que tu en donnes. Je n'irais pas jusqu'à Kotkaniemi, mais bon, un gars comme Poehling. Poehling ou des choix. Ils n'ont pas de choix de deuxième ronde non plus, Colorado, cette année.
Je suis ouvert à l'idée d'échanger des. Mais il faut déjà que tu aies ton idée de fête pour dire, OK, lui, je pense pas qu'il va se développer. Comme quand ils ont échangé Sergachev contre Drouin. Il y a eu tout à coup un vent où on s'est dit chez les gens du Canadien, on a eu un petit doute. Ouais. T'échanges pas un gars que tu penses qu'il va devenir Larry Robinson, là.
Non, ben, je pense pas que le Canadien pense qu'il va devenir Larry Robinson non plus. Je sais pas c'est quoi l'évaluation que le Canadien fait de Ryan Poehling. Je ne pense pas qu'à l'interne, il soit dans le top 6, dans l'horizon, mettons, de 3, 4, 5 ans. Là. J'en doute, là, présentement. Mais le Canadien a besoin. Là. Écoute, à un moment donné, il va falloir qu'il rentre du monde du côté droit de la défense, puis ça va prendre des jeunes aussi. Ils peuvent échanger aussi un défenseur gaucher là, pour aller chercher un gars comme Timmins. Il y en a plein, là, des défenseurs gauchers dans l'organisation canadienne.
Ce qu'il doit faire, là, c'est un peu ce qu'il y a... qui est parvenu tant bien que mal à faire avec ses attaquants. Tu sais, il a rapiécé, tu sais, ce que son draft, ce que ses repêchages, ils ont pas donné. Je pense à Philippe Dano, c'est l'exemple, je pense, le plus éloquent, là, pour illustrer ça. Il y en a d'autres gars comme ça. Joel Armia entre aussi dans cette catégorie-là quand on parle de rapiécage, de trouver des façons de venir remplacer ce que ton recrutement t'a pas donné. Il faut qu'il fasse ça.
Il va falloir qu'il aille chercher des joueurs. C'est ça. Il y a une limite, là, à aller chercher des choix au repêchage. Le Canadien, il y en a plein, là, des choix au repêchage. Il y en a 11 cette année, il y aurait eu 40 dans les 4 dernières années. Tu sais, à un moment donné, ça va prendre des joueurs qui peuvent jouer l'année prochaine.
Où est-ce que tu penses qu'il a pris ça? Regarde ce que les Hawks ont fait dans l'ère pré-Kane puis Taze. Pour vrai, là, regarde, on est tous ensemble, là. On va aller sur le site que vous préférez.
OKDB.
Puis là, tu vas voir le nombre de choix. Tu n'as pas besoin de les nommer. Là. Tu regardes juste la quantité. Fait que moi, je pense que de ce qu'il a vu à Chicago, il se dit ça t'en prend un maximum. C'est une loterie. Puis dans ça, plus tu en as, puis tu repêches bien, il va sortir de du pool de talent. Il va sortir
des joueurs. C'était aussi la stratégie des Islanders. Autour là, de 2006 à 2012, il y a eu des années. Il y a eu une année, là, les Islanders, ils ont eu soit 7 ou 8 joueurs. En fait, ils sont devenus des réguliers dans la Ligue nationale. Tous repêchés la même année, c'est exceptionnel. Ils se sont quand même pas sortis du trouble parce qu'ils ont été incapables de créer des ponts entre les jeunes puis les vétérans.
2004, puis c'est pas que ça a produit tous des grands joueurs. Là. Ils ont Troy Brewer, qui, de leur repêchage 2004, a joué 851 matchs en Ligue nationale, mais je pense qu'il a gagné une coupe avec Chicago. C'était un repêchage de 7e ronde. Il y avait 3 choix de 7e, 2 de 8. C'est vrai qu'il y avait 9 rondes dans ce temps-là. Les données étaient...
Non, mais attends, il y en a eu cette année-là...
2004 et 2005, là, je pense qu'il y a à peu près 22 choix. Regarde,
plus que ça. Juste en 2004... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 choix en 2004.
17. Sur 9 rondes. C'est ça qu'ils ont fait avant Taze et Kane. Ils ont fait ça 2-3 années de fil. Pas 17, ça a été le maximum qu'ils ont atteint. Ouais. Mais l'année suivante, ils n'ont eu beaucoup également.
Ce qui a moins bien marché, c'est que leur premier choix cette année-là, qui était 3e au total, ils ont pris Cam Barker. Ça fait quand même mal. Là.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est qu'on y revient toujours à la même chose. Quand même, le Canadien repêcherait 25 joueurs en juin prochain. Qu'est-ce qui arrive après ça? Puis le Canadien, j'insiste, on en a parlé souvent, le Canadien ne développe pas bien ces joueurs-là. Depuis que Joël Bouchard est à Laval, il y a un ascendant incroyable, puis une espèce d'aura d'excellence autour de lui, mais le fait est que cette année, on les a tous vus passer à peu près les joueurs du Rocket à Montréal, et ça faisait pas rêver.
Mais il n'y avait pas les meilleurs dans ses mains. S'il y avait eu Kotkaniemi puis Poehling au début de l'année ou l'an passé, peut-être qu'on pourrait voir l'œuvre de Bouchard auprès de ces gars-là.
Sauf qu'en même temps, qui aurait joué dans le line-up? C'est ça l'autre affaire. Mettons, sort Kotkaniemi au début de la saison.
Ouais, mais t'es un petit peu Alex.
Tu mettrais qui, Alex
Belzile? Si comme dirigeant, t'as l'intention de donner du temps à tes fleurs de pousser, tu vas faire des embauches en conséquence.
Je pense que
là, ils ont fait des embauches en fonction d'avoir l'air de se faire forcer la main parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Je pense qu'en fait, le plan d'embaucher Sébastien Aho, c'était clairement pour laisser du temps aux jeunes, aux fleurs de pousser en bas. Là.
Moi, je pense que c'était clairement pour faire semblant qu'on faisait des efforts pour améliorer le club, mais sans grands... En tout cas, on l'a eu, cette discussion-là, mais ça reste ma perception. C'était symbolique. Là.
Peu importe, le Canadien a comme identifié qu'il avait cet été dernier, qu'il avait un besoin au centre.
Oui,
s'il y a un besoin de centre, ça veut dire que tout le monde décale de 1. Ça veut dire que Kotkaniemi se ramasse sur la 4e, puis Poehling se ramasse dans la Ligue américaine. Ils n'auraient pas gardé Kotkaniemi.
Les blessures ont changé à
l'heure, c'est pas de l'année. Mais ils n'auraient pas gardé Kotkaniemi sur la 4e au début de la saison, c'est sûr. Ils n'auraient pas commencé la saison. C'est la 4e. Ils avaient déjà Thompson.
Suzuki aurait commencé à Laval?
Il jouait pas au centre au début de l'année. Il jouait à l'aile au début de l'année. Moi, je pense que le plan, c'était de ne pas faire commencer Kotkaniemi.
Les centres auraient été Aho, Dano, Domine, Thompson.
Oui, c'est ça.
Boudreau, on peut continuer sur le Canadien. Weber absent de 4 à 6 semaines, il va y avoir un impact à ça. On le voit déjà. On a hâte de voir les résultats des prochains matchs.
On peut y aller sur le wide. Là.
On peut parler de Boudreau. Ouais, Boudreau congédié. On a appris ça peut-être une heure ou deux avant d'entrer en studio pour le podcast. Le timing me rappelle un peu le renvoi de Michel Therrien. Oui. Puis Simon Olivier, c'est vrai ce que tu mettais en parallèle dans le texto que tu nous envoyais dans le courriel. Là, je te laisse nous raconter ça par rapport à Zucker. Est-ce qu'il y a une incohérence?
Moi, je comprends rien de ce que fait le Wild. Dans le sens que t'as raison, ça rappelle Michel Therrien parce que là, quand justement les auditeurs apprennent les coulisses du podcast Sortie Zone, mais on s'envoie des courriels le matin pour se préparer. Et Mario disait, ça me rappelle Michel Therrien. Fait que je suis allé voir Michel Therrien. Effectivement, a été congédié un 14 février. Donc c'est le scénario.
T'es sérieux, c'est la même date?
Oui. À la différence, le Canadien était premier de sa division à ce moment-là. Alors que
ça
allait pas bien. Et je pense que aussi, peut-être la principale chose que nuit à Michel Therrien, c'est que Claude Julien soit congédié à Boston et devienne disponible. Je pense qu'il y a eu un mix parfait, c'est arrivé. Oui. Le Wild, présentement, est à 3 points d'une place en série. Donc, il n'y a rien d'assuré. Et 3 points d'une place en série pour le Wild, c'est une très bonne saison pour le Wild que tout le monde voyait dans le fond de l'association de l'Ouest.
Moi, je les ai regardés jouer. Je suis allé voir les matchs au Centre Bell. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un club excitant à
regarder.
Non,
c'est pas un club excitant. Je dis pas que c'est une bonne équipe, mais ce que je dis, c'est qu'à 61 points,
ils surpassent les attentes.
Absolument. Alors là, ils surpassent les attentes. D'accord, on dit ça. Cette semaine, ils échangent Zucker à Pittsburgh. Pour Galchenyuk, qui on s'entend est du remplissage dans cet échange-là, un espoir et un choix de premier tour. Donc, le Wild se positionne en vendeur de dire, peut-être que les séries ne seraient pas pour cette année. OK, très bien. Là, on congédie Bruce Boudreau, Je comprends pas.
Une défaite en prolongation, puis il y avait 6 victoires dans leurs 10 derniers matchs. C'est peut-être pas assez pour faire des séries.
C'est ce qui est assez bon dans les circonstances. Et je comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Un peu quel genre d'électrochoc on cherche à ce moment-ci? Est-ce que Boudreau était le boulet qui faisait que cette équipe-là gagnait pas assez? Je veux dire, on s'entend, Boudreau, c'est pas un coach qui a fait gagner ses équipes dans les dernières années. Et c'est un coach qui, en plus, arrivait à la fin de la dernière année de son
contrat. Ouais, mais ça le rendait vulnérable.
Mais alors, je veux dire, pourquoi? C'était quoi l'urgence pour le Wild de brasser ben, la cabane comme ça?
On ne sait pas qui va le remplacer.
C'est son assistant. Dane Evason à date, l'ancien des Whalers d'Hartford.
C'est rare qu'on parle des Whalers. Ben, merci, Alex.
Il va vivre ce que Rick Bowness, que tu as rencontré d'ailleurs aujourd'hui, vit avec les Stars de Dallas depuis ce qui est arrivé. Est-ce que je me mélange, non?
Je pense que tu te mélanges parce que Bowness était là au début de la saison cette année.
Oui, mais il est devenu l'entraîneur.
À la place de Montgomery.
Excusez-moi, je fais dur.
Non, il n'y a pas de problème. Tu as semé le doute, mais là, tu sais. Donc, oui, il va vivre quelque chose de semblable, c'est-à-dire un adjoint qui s'en vient à chemin l'intérim.
C'est vraiment aussi tard dans la saison, alors que l'équipe est en pleine course pour les séries. Je comprends pas beaucoup où est-ce qu'on s'en va.
Moi, c'est tout court, cette organisation-là. Je ne comprends pas les gestes qu'ils font. Année après année. Et Boudreau, là, il est juste resté 4 ans. Il a quand même connu 3 directeurs généraux, là, ce qui est quand même pas pire. Là. Puis, tu sais, regardons juste la ligne d'ascente. Mikko Koivu, 36 ans. Eric Staal, 35 ans. Victor Rask, qui casse absolument rien. Là. Non. 26 ans. Plus on descend dans l'alignement, Zach Parise, qui est un de leurs meilleurs joueurs, 35 ans. En fait, leurs 2 meilleurs marqueurs sont en haut, 35 ans. T'sais, Zuccarello, 32 ans. Ils ont consenti un gros contrat. C'est une équipe. Là. Hey, leur défense, ils ont des bons jeunes défenseurs qui sont sur le marché, d'ailleurs, ce qui est plutôt drôle. Mm. Ryan Sutter a 35 ans. David Dubnyk a 33 ans. Vous trouvez que le Canadien est vieux là, puis qu'il faut qu'il agisse? Écoutez, le Wild, là, c'est bien. Puis là, on parle d'échanger les jeunes joueurs du Wild à la place d'échanger tous les gars qui ont 35 ans que je viens de nommer. Vraiment, là, puis cette équipe-là n'a pas beaucoup d'espoir aussi de première qualité. Ils ont Jordan Greenway qui est bon, mais après ça, il y a vraiment pas grand-chose.
Il y a une chose, c'est que, tu sais, des fois, tu te débrouilles avec ce que t'as, puis là, je veux pas refaire toute la genèse de ce qui a conduit le Wild là. Ils ont eu des équipes compétitives, ils ont raté leur fenêtre, mais ils vivent ce que le Canadien va vivre d'une autre façon. C'est que t'as besoin, pour rester compétitif, t'as besoin de ce que t'as, donc ça inclut des gars de 30 quelques années. Je dis pas que le Canadien est pareil. Je pense que c'est pire, mais tu veux rester compétitif. Ça prend des joueurs tant que t'as pas de jeunes pour remplacer.
Mais je pense
pas remplacer par meilleur, tes gars.
Je pense qu'on fait un pool, là, puis qu'on prend prenez une équipe pour les 5 prochaines années, là, c'est la dernière, là, que je prends. Tu sais. Écoute, ils ont pas gardé les bons joueurs.
Ils ont le meilleur gars de la KHL qui s'en vient l'an prochain.
Oui, s'il veut venir.
Ben, apparemment que c'est réglé.
OK, mais si c'est réglé, tant mieux, ils en ont vraiment besoin.
Je vais faire pompeux. Nos sources en KHL. Non, mais pas vrai.
Tant mieux. Écoute, ils ont vraiment de besoin, là. Vraiment de besoin. Ouais, mais il est très bon qu'après ça va être.
Très bon. Meilleur de la KHL depuis une couple d'années.
Je fais une précision. Tantôt, quand je parlais des 2 défenseurs disponibles, j'ai dit c'était Spurgeon, mais c'était Jonas Brodin également avec Dumba. Fin de la parenthèse. Le Wild aussi, il faut dire, deux de leurs gros boulets, c'est Parisé et Souter et leurs horribles contrats.
Oui. On y repense
pas souvent, mais ces contrats-là qui ont été signés dans cette fenêtre-là, ce qui inclut chez Weber, des contrats de 10, 11, 12, 13 saisons, ça a été une catastrophe pour les équipes.
Incroyable.
Ovechkin arrive à la fin d'un contrat de 10 ans, c'est le seul exemple, je pense. Puis Ovechkin, on s'entend, dans une classe à part. Luongo est pas allé au bout de son contrat. Kovalchuk, on aime beaucoup. Je suis pas sûr qu'au New Jersey, il l'aime autant que nous. Ryan Souter, ils sont très chanceux, le Wild, qui leur en donne autant, à jouer autant. Il joue 30 minutes par match. Souter, peut-être pas 30 piles cette année, mais... Et non, mais attends, comme ça n'a aucun sens.
Alors, Ryan Souter et Zach Parise, les deux ont 35 ans. Les deux, il leur reste 6 ans avec une clause de non-mouvement à 7,5 millions chacun. C'est 100 millions de dollars américains.
Tu viens quand
Parise, ces deux gars, c'est épouvantable.
Tu sais, Parise, tu sais, quand t'as pas de talent, on aurait aimé l'avoir à Montréal. T'sais, tu regardes que finalement, il est arrivé au Minnesota, ils en ont fait des embauches. Il y a bien des équipes qui essaient de prendre des raccourcis, puis finalement, non, mais, ils sont compétitifs une couple d'années, mais d'aller jusqu'au sommet, c'est
Mario,
très difficile.
Pensez, OK, Zach Parise a une clause de non-mouvement, Matt Zuccarello a une clause de non-mouvement, Mikko Koivu a une clause de non-mouvement, Eric Staal, une clause de non-mouvement. Ryan Sutter et Jared Spurgeon. Ils ont tous des clauses de non-mouvement. Ils pourront même pas en passer un. Puis David Dubnyk, qui est probablement le pire gardien de la Ligue cette année. ils pourront même pas en passer un au repêchage l'année prochaine.
C'est quoi? Il y en a un qui en avait pas, pis c'est Bruce.
Ah oui, non, c'est ça,
exactement. Lui, mais moi, pour revenir puis boucler la boucle en fin de conversation, les gars, avec les joueurs disponibles, on t'a dit jour, comme tu le précisais si bien, de la date limite des transactions. Puis c'est pas là rien de personnel, mais dans les trucs, quand je regarde l'alignement du Canadien, bon, il y a bien des décisions à prendre par rapport à certains vétérans. Vas-tu garder des Thompson, etc. Est-ce que de liquider des gars comme ça fait que tu ramènes Kotkaniemi finir l'année en haut? C'est la meilleure affaire pour son développement. Ça, c'est, tu sais, j'ai beaucoup d'affaires dans mon élément, mais moi, le gars qui est disponible sur ma liste, c'est Max Domi. Moi, Max Domi, là, je m'en sers comme monnaie de transaction. Vous avez entendu parler des dépisteurs de Tampa Bay qui assistaient au match contre les Bruins, trois dépisteurs. Je sais pas qui observe. Kovalchuk, Domi, un défenseur, je sais pas.
Je sais pas. Je pense aussi que Domi est présentement la meilleure monnaie d'échange du Canadien. J'essaierai d'aller chercher un défenseur, en fait, contre Max Domi. Le Canadien doit se renforcer en défense. C'est vraiment un besoin prioritaire pour faire
en prévision de l'an prochain.
Ah, il faut. La priorité de l'entreprise doit être là.
Ben, en fait, on en a déjà parlé ici. Moi, effectivement, je suis d'accord, Domi ou Tatar. Thomas Tatar. J'ai écouté un podcast concurrent, celui de nos amis de The Athletic, la semaine passée, qui faisait un point intéressant là-dessus que dans un avenir, si Domi est pas dans les plans de l'organisation au court moyen terme au centre, ça veut dire qu'on va ennuyer un ailier, puis un ailier, il y a déjà beaucoup de monde sur les ailes. Fait que ce serait Tatar ou Domi, mais pas les deux. Donc présentement, les deux sont assez, je pense que Tatar est le plus attrayant pour les autres équipes, dans mesure avec sa situation contractuelle, il peut donner deux années en série, etc.
Domi a juste 24 ans.
Il a une bonne
ans.
Saison. Ouais. Domi n'a pas de contrat à la fin de la saison, ça devient plus compliqué. Mais
arbitrage, tu sais, au moins tu contrôles une partie de la négo.
Oui, mais je pense qu'en tout cas, je pense que ces deux joueurs-là sont à l'heure actuelle la meilleure monnaie d'échange du Canadien, que ce soit un ou l'autre. Je serais surpris des deux, là, mais un ou l'autre, oui.
Tatar, tu sais, je sais que beaucoup en parlent. Tu sais, quand je regarde l'alignement, j'ai de la misère. J'ai 52 points. Ben, j'ai de la misère à laisser aller. Mais ça dépend ce que t'en retour. Ça dépend ce que t'en
retour. Tu veux faire l'équipe l'année prochaine, normalement, tu le gardes. Tu veux faire les séries l'année prochaine, tu essaies de le garder. Ça, c'est sûr.
Exact.
À moins d'avoir un Suzuki, tu sais, en retour d'un gars comme ça, là, tu sais, genre, tu sais. Mais.
Boy.
Trompe-toi pas, hein.
Ben, tu sais, t'es l'autre équipe, est-ce que tu le fais? La réponse, c'est non, là. Je veux dire, il est joueur autonome. Tu sais, est-ce qu'on l'échangerait contre Connor Timmins, par exemple? C'est une bonne question. Est-ce que Colorado ferait cet échange-là? Je le sais même pas. Ils ont plein de place, là, sous le plafond salarial.
L'équipe qui veut gagner maintenant. Tu sais, c'est une équipe qui veut gagner maintenant.
Voyons à l'envers. Est-ce que le Canadien donnerait Cole Caulfield pour aller chercher un Thomas Tatar?
Non.
Je pense que les partisans,
ben,
ça serait
pas dans la situation de classement, là. Mais mettons,
ouais,
si le Canadien pense qu'il peut tout gagner, je vais te rappeler un échange, Joe Nieuwendijk contre Jerome McGinley.
Ouais, ouais.
C'est sûr et certain que si tu regardes les
Bretol, je pense, non?
Nieuwendijk. C'est sûr et certain que Nieuwendijk a pas aidé longtemps d'Alice.
Mais il a gagné. Tout à fait.
Et là, nos jeunes auditeurs qui viennent de quitter la pièce tout à coup.
Ben non, Joe Nieuwendijk.
L'historique, mesdames, messieurs, ça compte. Eh bien, les gars, je sais que vous êtes des gars romantiques, même si vous le cachez bien. J'ai aucune idée. Non, mais il est temps de se dire au revoir en ce vendredi 14 février. Claude Hébert, qui est à la mise en onde aujourd'hui, qui vient de prendre le contrôle des ondes. On va être cohérents, messieurs. Il y a de l'amour dans l'air. Oui. Combien de points pour le Canadien? Je sais pas. On va voir. Ça en prendrait comme 5 sur 4.
Ouais. Je vais dire 0 sur 4. Malheureusement.
C'était Sortie de zone, tout le monde. Merci beaucoup. Bon week-end. We'll be right back.